Showtime arrive sur Radio Larzac.
Ok, on y va. Showtime, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission du partage de la passion du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire sur Radio Larzac. Pour cette émission du mois de mars, le programme va pas plus que ça déroger à la règle des précédentes émissions, puisque vous retrouverez un peu d'actu ciné, avec ensuite quelques suggestions, puis suivra un avis sur le film Willy's Wonderland de Kevin Lewis avec Nicolas Cage. Pour terminer, ce sera un focus sur la série WandaVision. Mais j'en dis pas plus, Showtime saison 8 épisode 6, c'est parti. Bon, j'ai pas plus m'étaler que ça en blabla avant de nous lancer dans l'actu du mois. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que l'émission, c'est quand même l'émission sur la partage de la passion du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire. Donc c'est vrai que si l'actu porte surtout sur ce genre de film-là, excusez-moi, c'est pas grave, c'est l'émission qui le veut. J'en dis pas plus, c'est parti pour l'actu.
L'actu du mois.
Alors, ce mois-ci, dans l'actu, encore une fois, moi, je suis un petit peu... j'ai un peu le cul entre deux chaises, parce que autant j'aimerais vous parler de beaucoup de choses, autant il y a très peu de choses auxquelles vous parlez. Bon, il y a bien Fast and Furious 9 qui a été reporté une énième fois. Bon, là, ça va, ça a été reporté pour le mois de juin, ça devait sortir en mai, ça a été reporté en juin. Voilà, il y a pas mal de films qui commencent à pointer le bout de leur nez pour cette année 2021, même si on sait pas trop où est-ce qu'on va vraiment, tant qu'il n'y a pas de réel feu vert pour les réouvertures de salles de cinéma, c'est un petit peu compliqué pour les sorties ciné. C'est étrange parce qu'à l'île de la Réunion, j'ai cru lire que pour autant, là, ils ont réussi à ouvrir des salles de cinéma, tout se passe bien, mais en métropole, mystère, Madame Bachelot, enfin bref, c'est un peu flou là actuellement, et c'est vous dire, c'est dommage parce qu'il y a des films de qualité comme Wonder Woman 1984, enfin je dis qualité, il faudrait que je vous en parle d'une meilleure façon, j'ai failli vous en parler ce mois-ci, mais oui, du coup, Wonder Woman par exemple, ça va sortir directement dans les bacs, comme beaucoup d'autres films qui auraient dû sortir l'année dernière. Ça va faire Monster Hunter par exemple, adaptation d'un jeu vidéo, de ce que j'ai cru lire, il fait partie des pires films de l'année 2020. Il faudrait que je le voie pour m'en faire un avis et peut-être vous en parler ou pas. Mais voilà, enfin, il y a pas mal de films donc qui ont sauté la case sortie en salle pour sortir directement dans les bacs quand ils ne sortent pas sur un service de SVOD type Disney Peluche, le service de streaming de la souris aux grandes oreilles. Bref, c'est un petit peu dommage tout ce qui arrive aux salles, et encore une fois, comme je disais le mois passé, ça fait un petit peu peur. Lorsque les salles vont rouvrir, on va se taper quoi une énième fois, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon dieu, une énième merde française, excusez-moi, mais les bons films français, moi je les compte sur les doigts d'une main, et je fais partie des rares, je pense, qui soutiendraient La vie d'Adèle, de vous comprenez l'idée. Moi, j'ai bien aimé, surtout la bande dessinée, elle était très sympa. Mais ah oui, après, pour ce qui est de l'actu cinéma, il n'y a pas plus à dire. Je vous parlerai un petit peu plus jeux vidéo, j'aurais pu vous parler jeux vidéo, mais là n'est pas le propos de l'émission. Pour autant, je tenais tout de même à vous parler du film à venir, Cruella de Craig Gillespie avec Emma Stone. Hein. Le film est prévu pour une sortie en salle, si tout va bien, le 26 mai 2021. Hein. C'est Emma Stone qui incarnera hein, Cruella d'enfer hein, dans ce film qui se veut être une préquelle hein, au film, ben, film, roman, dessin animé, ce que vous voulez. Je vous en propose la bande-annonce et je vais rapidement la débriefer. Après.
From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho. Sorry now. But a new day brings new opportunities. Sorry now. And I was ready to make a statement. How does the saying go? I am woman, hear me roar. Getting started, darling. The thing is, I was born brilliant. Born bad. And a little bit mad.
Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Déjà, aux sonorités, mon propos va se faire comprendre, mais si vous avez l'occasion, essayez de la voir par vous-même, parce que lorsque l'on regarde cette bande-annonce, moi, j'ai tout de suite pensé Joker. Franchement, on dirait que Disney essaye de faire de Cruella son Joker ou son Harley Quinn, ce que vous voulez, hein, le pendant féminin du Joker en soi. Mais oui, on retrouve un petit peu de cette énergie-là dans le film et c'est un petit peu bouleversant. C'est pas que c'est déplaisant, mais moi j'avais l'impression que, comment dire, qu'il y avait deux univers cinématographiques différents, enfin deux visions différentes au niveau du film, un petit peu comme si c'était une sorte de créature hybride étrange, un peu comme a été le Justice League de Joss Whedon, hein, qui a terminé ben, le Justice League de Zack Snyder. On retrouve un petit peu ce truc-là dans le Cruella, dans la bande-annonce de Cruella, parce que autant on retrouve l'esprit, et autant il y a un côté anarchiste, Joker, ce genre de choses, on se demande mais qu'est-ce que ça vient faire dans un film Disney. Bon, à voir, après la surprise sera peut-être au rendez-vous, mais moi là je suis moyen convaincu, hein. Je demande vraiment à voir de ce qu'ils auront pu faire bah, du personnage de Cruella. Après oui, je parlais de Zack Snyder Justice League, mais sachez que en France, nous aurons droit à ce film en même temps que les Amériques, c'est-à-dire que le 18 mars, nous pourrons découvrir un film durant pas moins de 4 heures qui permettra enfin de connaître la véritable version de Zack Snyder, hein, de ce qu'il voulait faire de la Justice League. Hein. Zack Snyder, hein, un grand cinéaste, hein, un peu un artiste incompris, je trouve, hein, qui a fait de superbes films comme 300, Man of Steel, Batman v Superman et surtout Sucker Punch. Mais j'en dis pas plus, hein, on va passer aux suggestions où on va parler d'une autre série hein, cinématographique en partie, mais aussi vidéoludique, qui fête ses 25 ans et qui nous revient au cinéma techniquement courant de cette année. Mais j'en dis pas plus, place aux suggestions.
Les suggestions.
Alors, pour ces suggestions, ben, je vais encore vous parler vinyle, hein, oui, parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup les bandes originales, hein, franchement, il y a vraiment des bandes originales qui sont de qualité, hein, et j'aime avoir ben, ces petites choses en vinyle, hein, et c'est notamment le cas de la bande originale de Resident Evil 5, hein, le cinquième opus de la saga Resident Evil qui fête ses 25 ans cette année, et où il y a pléthore d'ouvrages hein, qui sortent un petit peu à droite, à gauche, hein, chez beaucoup d'éditeurs. Hein. On trouve Génération Resident Evil chez Omake Books, si je dis pas de bêtises. Il y a un autre bouquin sur aux éditions Pixel Love. Enfin, j'ai plus les noms exacts, mais c'est vous dire, il y a beaucoup de livres qui vont nous expliquer, enfin, qui vont revenir sur la genèse de ces jeux vidéo. Parce que oui, hein, les jeux vidéo, certes, on peut les décrier, pam pam boum boum, hein, merci Brigitte Macron, enfin bref, pff, on s'en fout. Mais oui, derrière ces jeux-là, il y a quand même des personnes, des familles qui se donnent pour essayer de faire de leur passion, de créer quelque chose, un contenu, pour plaire ben, au plus grand nombre. Hein. C'est un peu comme un film, mais à plus grande échelle, hein, puisque dans un jeu vidéo, hein, on devient acteur en plus d'être spectateur. Hein, là où justement, dans un film, on est seulement spectateur. Enfin bref, avec les Resident Evil, dans les années 90, 96, si je dis pas de bêtises de mémoire, Shinji Mikami avait quand même bouleversé son monde hein, avec le premier Resident Evil qui se passait dans le manoir Spencer et qui proposait un des premiers jeux ben justement en 3D effrayant hein, et qui faisait son petit effet. Bon, après il y a eu pléthore de suites et justement au fur et à mesure des suites ben, les musiques ont monté en qualité hein. C'est pas un secret, dernièrement les musiques hein, dans les productions vidéoludiques n'ont rien à envier hein, au cinéma hein, puisque on fait des fois appel à des orchestres symphoniques hein, pour les réaliser. Et ça a été notamment le cas hein, des musiques de Resident Evil 5, hein, où le compositeur Kota Suzuki, en plus d'avoir travaillé de main d'œuvre, ben, comme je vous le disais, avec des orchestres symphoniques comme ceux de Hollywood Studio et d'autres, et j'en passe, ben là, il a aussi travaillé en collaboration avec une chanteuse sénégalaise, Oulimata Niang. Cette chanteuse, ben, c'est celle que vous allez entendre dans quelques instants dans l'extrait que j'ai choisi. Et pour vous faire un petit topo, pourquoi une chanteuse sénégalaise ? C'est aussi parce que le jeu se passait globalement en Afrique. Hein. L'action du jeu était en Afrique et amenait quelque chose de différent. Ça a été vraiment un bouleversement dans la saga Resident Evil à proprement parler. Hein. Bon, ça avait un accent un peu plus action. Je pense qu'il faudrait presque... J'avais fait une bonne émission hein, sur les Resident Evil hein, dans les précédentes saisons de Showtime. Je vous y envoie. Mais oui, il faudrait presque vous parler du développement à proprement parler de ce jeu, parce que les développements des Resident Evil, ils sont souvent chaotiques, et notamment celui-ci. Hein, il a rencontré quelques petites difficultés, et il y avait de l'ambition au début dans le projet. Après, il est apprécié comme détesté, moi je l'ai beaucoup apprécié, et je pense que je me régalerai à y rejouer. Hein. Je pense que ce Resident Evil, ça sera un intemporel, quoi qu'il arrive. Donc oui, là, pour l'occasion, du coup, je vous ai choisi la musique Chris Arrival. Hein, c'est une des toutes premières musiques que l'on entend, justement, avec l'arrivée de Chris sur fond d'éléments un petit peu d'intrigue qui montrent les menaces à venir, éventuelles, hein, dans le jeu. Et oui, c'est une musique qui donne tout de suite le ton. Et de part, ça, il y a une certaine légèreté, une certaine poésie. Je vous ai sûrement déjà fait dans d'autres émissions ben, du thème principal Prey, et on retrouve ici dans ce Chris Arrival certaines notes, et bon, enfin, je vous laisse en profiter à proprement parler avant ben, de débriefer. Yeah. C'était donc Chris Arrival hein, de Kota Suzuki avec Ulimata Nyang. Bon. Je vais pas plus m'étarder sur ce Resident Evil, hein. Tout à l'heure, je parlais justement que ça allait refaire son arrivée dans les salles obscures. D'ici la fin de l'année, techniquement, il va y avoir un reboot, hein. C'est une remise à zéro de l'aventure Resident Evil. C'est-à-dire que ici, on va se situer dans les années 98, comme le veut, comme débute, hein, la saga vidéo-ludique. Et on y retrouverait les personnages de Chris, Jill, Claire, etc., etc., face à pléthore de zombies, ou expérience biologique due à la terrible compagnie Umbrella. Franchement, de par l'accent de comment ça part pour ce film, on peut espérer, s'attendre à avoir une adaptation un petit peu plus fidèle hein, que les films de Paul W.S. Anderson, hein, le monsieur qui nous a pondu les 6 films Resident Evil. Il a fait quoi Monster Hunter, lui, il faut vraiment que je le voie. Alien versus Predator, même si son Alien versus Predator, il est quand même sympa. Manque un peu de gore, mais sympa. Et c'est lui aussi qui nous a fait Mortal Kombat. Mortal Kombat qui ressort tout bientôt dans les salles obscures. Mais j'en dis pas plus, hein. Croisons les doigts pour que les salles rouvrent très prochainement. Moi, je vous propose de vous parler vraie fausse adaptation de jeux vidéo avec la vie sur Willy's Wonderland.
La vie. Sur
Willy's Wonderland de Kevin Lewis avec Nicolas Cage. Un gardien d'un parc d'attractions se retrouve bloqué durant toute une nuit. Les monstres du parc prennent vie et sont à sa poursuite. L'homme doit les vaincre pour survivre jusqu'au matin et être enfin libéré. Bon, en lisant le synopsis comme ça, on se croirait transporté justement dans l'un des scénarios des justement Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, hein, cette série de jeux vidéo où l'on joue justement un gérant hein, d'un Freddy's, hein, une sorte de pizzeria ou un truc dans le genre, une sorte de parc à thème avec des animatroniques qui ont pas de bonnes, très très bonnes intentions. Ici, c'est un petit peu le cas pour Willy's Wonderland hein, de Kevin Lewis avec Nicolas Cage.
Welcome to Willy's Wonderland. Spend the night cleaning Willy's Wonderland, and I will pay to have your car fixed. Deal? You are officially on staff. Let's get the hell out of here. I can't stand to hear a grown man scream.
This place has a dark history. I know the bullshit story they told you. It's a lie. You're here to be a human sacrifice. Have you been listening to a word I've been saying? He's gonna die in here, but he won't listen to me.
The machines got out. Nobody is safe.
Put your balls on, Evan.
We're going to Willy's.
He's not trapped in here with them. We're trapped in here with him.
It's birthday time.
I enjoy a man a few words.
Ah! Donc, bon, l'histoire, au final, c'est plus un mec qui a un accident de voiture, du moins, il a un incident avec sa voiture, les pneus de sa voiture se crèvent, il n'a pas d'autre solution, donc, d'être remorqué et d'accepter l'emploi d'un, du gérant du Willy's Wonderland, qui lui promet, s'il reste toute la nuit pour nettoyer le parc, il lui fera grâce, il lui paiera sa facture. Grosso modo, c'est ça l'intrigue du film. Donc oui, sur certains points, ça rejoint un petit peu ce qui se fait dans les Five Nights at Freddy's. Et oui, car on va pas s'en cacher, mais Willy's Wonderland, c'est une sorte de vraie fausse adaptation de Five Nights at Freddy's. Parce que ça fait un petit moment qu'on parle de Five Nights at Freddy's, adapté au cinéma, ce genre de choses. Mais ici, c'est un petit peu la même. Ils ont juste changé l'apparence des animatroniques tueurs. Et ils ont mis au beau milieu de tout ça Nicolas Cage. Nicolas Cage, qui a eu une très bonne carrière au cinéma dernièrement, c'est un petit peu ralenti, ce genre de choses. On le retrouve le plus souvent maintenant dans ce genre de production, des types série B, ce genre de choses. Un petit peu comme Mandy. Mandy, oh là là, ce film très psychédélique, avec un Nicolas Cage vraiment à fond. C'était mon t-shirt préféré. Si vous avez vu le film, vous comprenez de quoi je parle comme scène, mais... Il est dingue. Dans Mandy, il est dingue. Et là, dans, j'allais dire Five Nights at Freddy's, mais non, dans Willy's Wonderland, il est tout aussi dingue. La particularité du personnage, c'est qu'il ne parle pas du tout. C'est vraiment un peu un rôle de composition, on va dire, parce que c'est pas donné à tout le monde de ne pas parler tout du long du film et de transmettre des émotions, quelque chose par des jeux de regard, par des jeux de faciès, par le langage corporel, ce genre de choses. Et de par cet aspect-là, ça permet aussi aux spectateurs d'être... de se projeter dans la peau du personnage de Nicolas Cage. Et franchement, il a de ces séquences, mais dingues. Déjà, au niveau des chorégraphies, de certaines chorégraphies par rapport à certains affrontements avec les animatroniques, ou encore la scène du pinball. C'est un Nicolas Cage en roue libre qu'on a là, franchement. Le film m'a scotché. Il m'a vraiment scotché. Je me suis dit, il y a plusieurs hommes d'action qui auraient pu prendre la place de Nicolas Cage. Par exemple, je pense à Jason Statham. Mais avec du recul, je suis en train de me dire, est-ce que Jason Statham serait été aussi percutant? Parce que Jason Statham, c'est aussi la tchatch qui fait l'acteur, ses rôles à Jason Statham. Du coup, non, avec du recul, ouais, Jason Statham, je pense pas que ça aurait été aussi percutant que Nicolas Cage. Parce que... Encore une fois, il est bluffant. Après, pour ce qui est de l'histoire du film, on retrouve un petit peu certaines similitudes avec les Five Nights at Freddy's. Bon, là, ils ont tenté de donner certaines explications au pourquoi du comment les animatroniques sont doués d'une entité, d'une propre volonté à proprement parler. Ça, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans le film. Mais bon, après, pour ce qui est de l'histoire, ça tient sur un timbre-poste. Pareil, à un moment, on a bien le principe de teenage, de jeunes adolescents qui arrivent et qui vont servir de chair à canon pour les animatroniques. Ce qui va donner certaines scènes assez intéressantes et par moments un petit peu angoissante. Le film, de par son aspect et aussi grâce à Nicolas Cage, il joue surtout du côté comédie horrifique. Mais pour autant, il y a certains moments un petit peu angoissants. Je pense notamment à un moment lorsqu'il y a le personnage de Liv qui est en train de se faufiler dans les conduits d'aération. Putain, l'animatronique, comme ils l'ont fait surgir à un moment. Puis même, il y a d'autres séquences un petit peu plus... intéressante. Bon, ça n'invente rien, mais un des adolescents est pris, se trouve dans une salle où il y a la lumière qui fait jour-nuit, un truc dans le genre, et au final, quand c'est noir, on voit plus rien, mais quand c'est jour, quand ça s'éclaire, on voit les animatroniques qui bougent de manière assez irrégulière et qui s'avancent au fur et à mesure, et franchement... Il y a beaucoup de bonnes idées, je trouve, au niveau de l'image dans ce film, mais aussi... Les musiques, la bande originale de Et moi, oh là là, Moi, même les effets spéciaux, enfin, les effets spéciaux, bon, c'est pas folichon, mais pour la production que c'est, ça fait son petit effet. Moi, franchement, c'est un coup de cœur, et en plus, quand j'ai fait mes 2-3 petites recherches, je vois qu'une... Je suis curieux de savoir comment on peut faire une suite à ce film-là. Mais pour la suite, il faut Nicolas Cage. Désolé, mais là, c'est lui qui porte le film. C'est vraiment Nicolas Cage qui porte le film, parce que presque les adolescents n'auraient pu s'en passer. Hein. On aurait pu mettre, je sais pas, un retournement de situation, les plombs qui pètent ou quoi que ce soit, il doit réparer un truc pour que ça reparte, un peu comme les Five Nights at Freddy's, hein, où on a une batterie d'électricité limitée. Mais on aurait pu mettre n'importe quel autre événement du moment que... Ben oui, avec Nicolas Cage et que ça impliquait seul Nicolas Cage, j'aurais pu très bien faire l'affaire. Après, bon, ça permet d'offrir un petit background, hein, de comprendre le pourquoi, du comment, de ce qui se passe, blablabla, blablabla. Bla bla. Mais des fois, avoir une part de mystère, c'est pas plus mal. Et justement, peut-être que c'est ce qu'ils pourront faire avec une suite, si vraiment il y a et si elle se profile dans les prochaines années. En tout cas, moi, Willy's Wonderland, c'est... Je vais pas dire... que c'est le film du siècle, que c'est le film parfait, ou quoi que ce soit. Mais pour ce qui est des comédies horrifiques, pour ce qui est des films avec Nicolas Cage, pour ce qui est, ben... C'est pas Five Nights at Freddy's, mais c'est une vraie fausse adaptation, mais... Franchement, mais... Limite, c'est presque con que ce soit pas du Five Nights at Freddy's, parce que sinon, j'aurais dit... l'adaptation de jeux vidéo parfaite avec Silent Hill, premier du nom. Mais sinon, il n'y a rien à redire sur le film, c'est un kiff parfait. Franchement, c'est un film à savourer. Moi, je peux vraiment que vous le recommandez. Moi, j'ai un peu de mal à en parler, j'ai l'impression de me répéter, mais moi, je le trouve dingue. Il est vraiment super cool. Franchement, c'est du pur divertissement. Et des fois, ben ça fait pas de mal.
Daylight's gone, and you find yourself alone.
Alors, avec ce film, la musique c'était Willy's Wonderland et moi. C'est la musique qu'on entend la première fois lors de la séquence du pinball, du flipper avec Nicolas Cage. Je pense que lors de cette séquence, on lui a dit, j'ai dû en parler dans le son, mais ouais, on a dû lui dire carte blanche, vas-y, fais-toi kiffer. Mais il nous fait une chorégraphie, c'est dingue. Franchement. Moi j'étais pas préparé avec ce film, hein. C'était une claque. Même le son là que je vous ai fait, qui va servir également pour ma chaîne YouTube Chafouineur, ben je sais pas comment vous dire, c'est trop d'émotions. Là je l'ai vraiment enregistré juste après, et tellement d'émotions. Enfin là, ce film il m'a pris aux tripes, hein. J'étais superbe, hein. J'ai rarement vu un film d'une telle qualité, hein. Franchement, il faut débrancher son cerveau, c'est pas du grand cinéma ou quoi que ce soit, mais il est bluffant, hein. Et franchement, même si c'est pas un grand film, la prestation, encore une fois, de Nicolas Cage, il parle pas. Tout se fait par le regard, le faciès, le langage corporel. Enfin, moi, je suis bluffé. Pour moi, c'est juste pour ça, grâce à Nicolas Cage. Hein, je pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu faire pareil, hein, encore une fois. Mais ouais, juste pour ça, c'est un film à saluer. Hein, il faut savoir dire quand quelque chose est affolant, impressionnant. Mais là moi, je suis bluffé, scotché. J'en reviens toujours pas. Et je pense que je pourrais continuer à répéter en boucle qu'il est dingue, ce film. Hein, parce que, ouais, il est dingue. Mais voilà, bref, hein, on va passer au focus, hein, sur WandaVision. J'ai 2-3 petites choses à vous en dire, hein, et ensuite je vais débriefer un petit peu, parce que là encore, c'est un son remixé, hein, de ce que j'ai pu proposer sur la chaîne du Chafouineur. Mais je tenais à vous le proposer, parce que au final, oui, je me suis laissé tenter par WandaVision.
Focus sur
WandaVision vient de se cloquer. Parlons-en rapidement, hein, on suit les aventures de Wanda et Vision qui sont piégées dans une sorte de réalité alternative, type un petit peu sitcom américaine. Bon, les débuts de saison, c'était beaucoup, ça jouait beaucoup de cet aspect-là, ça s'est un petit peu perdu par la suite, au fur et à mesure que la série avançait, pour rejoindre un petit peu les canons, hein, de ce que nous a offert durant toutes ces années le Marvel Cinematic Universe. Pour autant, cette série est tout de même différente de tout ce que l'on a pu voir jusque-là. Je vous explique.
Wanda and Vision, aren't we a five pair?
This is our home now. I want us to fit in.
Oh, this is gonna be a gas!
Where did you two move from? How long have you been married, and why don't you have children yet?
Our story.
I think what my wife means to say is that we moved from...
Moved from where? Married when? Damn it, why?
Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it.
Deep in the dark, your kiss spilled through
me. Is this really happening?
Like days of old. Spark of love that fills me with
flames of hope. Am I dead?
No. Why would you think that?
Because you are.
Each day I pray for evening just to be.
We are an unusual couple, you know.
Oh, I don't think that was ever in question.
Car oui, c'est vraiment les personnages de Wanda et Vision qui sont au centre de l'action. Leur relation y est plus que développée et y est développée comme jamais. Alors que par exemple dans les productions type Avengers, ce genre de choses dans lesquelles ils sont apparus, ils étaient relégués un petit peu au second plan, même si leur relation évoluait de film en film, on savait pas trop est-ce qu'ils en étaient ou quoi que ce soit. On avait bien compris, hein, que ça avait déchiré Wanda lorsqu'elle avait dû tuer, entre guillemets, Vision avant que Thanos s'empare de la pierre de l'esprit. Mais bon, les choses se sont passées tout à fait différemment. On savait donc que oui, il y avait un lien très fort entre eux. un lien qui a été donc développé, comme j'ai pu vous le dire précédemment, dans la série WandaVision. Mais le problème, c'est que WandaVision, c'est tout de même la première phase, hein, le premier édifice de la phase 4, hein, le quatrième grand acte de l'aventure Marvel Cinematic Universe. Pour une fois, c'est une série télé qui a mis quand même le budget, hein, parce que pour une série télé, hein, elle est de qualité. Hein, franchement, au niveau des effets spéciaux ou quoi que ce soit, c'est très beau à voir. Et au fur et à mesure, justement, de l'avancée de cette série, on allait de surprise en surprise, de quoi justement ouvrir quelques portes pour le Marvel Cinematic Universe, pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Bon, c'est pas un secret de Polichinelle, hein, va y avoir beaucoup de multiverses, de réalités alternatives, ce genre de choses, dans cette phase 4. Et justement, WandaVision permet justement de mettre en avant tout cela. Bon, après, comme j'en parlais dans la vidéo, quid de Black Widow ? Un petit peu étrange, hein, même un petit clin d'œil ou quoi que ce soit, ça aurait peut-être pas été de mal, hein, peut-être pour rattacher les ponts, savoir où est-ce que ça va pouvoir se situer, ou est-ce que Black Widow va pouvoir apporter des éléments pour la suite, enfin bref, mystère, peut-être que The Falcon and the Winter Soldier qui commence le 19 mars prochain pourra répondre à cette question. Mais avec ce dernier épisode, que nous offre donc la série WandaVision ? Bon, déjà c'est une conclusion. Une bonne conclusion pour cette série qui quand même amène à se faire poser beaucoup de questions sur le personnage de Wanda. Parce que oui, au final, y a-t-il vraiment un méchant dans cette série ? Certes, il y a le personnage de Agatha Harkness qui cherche à s'approprier les pouvoirs du chaos de Wanda, mais ensuite, Wanda, méchante, pas méchante, c'est un petit peu difficile de la cataloguer puisque c'est vraiment tout ce qu'elle a vécu qui l'a amené à faire ce qui est présenté dans la série, un petit peu à la manière de Tony Stark, justement, suite aux événements de la bataille de New York, qui l'ont amené à avoir ses crises d'angoisse, etc., et à se remettre beaucoup en question, et ensuite créer le projet Ultron, hein, qui se retournera un peu beaucoup contre lui, et ensuite ça amènera, entre autres, les événements de Captain America Civil War. Ici, c'est un petit peu la même hein, qui est faite avec le personnage de Wanda, puisque le personnage est développé avant d'être déconstruit, de le remettre en question, puis justement de le faire exploser. Hein, car oui, enfin, Wanda devient la sorcière rouge, hein, celle qu'elle est dans les comics avec un costume qui est justement très joli, très très joli, et qui fait justement raccord avec ce qu'elle porte dans les comics. Après, pour ce qui est du personnage de Vision et des enfants de Vision, on pouvait faire de nombreuses théories hein, concernant les Young Avengers. Qu'en sera-t-il réellement ? La scène post-générique peut justement répondre à cette question. Car oui, tout du long de... Du moins, dans les derniers épisodes de la série, est mis en avant le Darkhold. Le Darkhold, The Book of the Damned, hein, le livre des damnés, que l'on a déjà pu voir dans la saison 4 de Agent of S.H.I.E.L.D. C'est vrai que le nom de Darkhold, lorsque Agatha Harkness l'a prononcé dans le dernier épisode de la série, ça me dit « Ah, tiens, on a déjà entendu parler de ça, mais oui, le Darkhold est déjà apparu dans le Marvel Cinematic Universe. » Bon, il nous permet d'apprendre certaines choses, comme quoi la sorcière rouge pourrait être plus puissante que les sorciers suprêmes. De là à dire, encore une fois, que Wanda pourrait être la méchante de Doctor Strange in the Madness of the Multiverse, il n'y a qu'un pas. Parce que la scène post-générique, elle rend pas serein quant au personnage, quant au devenir du personnage. Ce qui serait raccord avec les comics, où justement suite à la perte de ses enfants, elle pète un boulot. Donc oui, au final, ce final de saison, comment dire ? Quand on est fan de l'univers Marvel, on s'attend à avoir pléthore de caméos, d'anecdotes, d'idées pour la suite ou quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment la conclusion de l'histoire hein, de WandaVision qui est mise en avant. Il y a des portes ouvertes, notamment avec la première scène post-générique qui met en avant Monica Rambeau et un Skrull qui parle justement d'un ami hein, qui la demande dans l'espace. Un ami commun avec sa mère, donc soit c'est, j'ai plus le nom du Skrull, mais ou sinon c'est Nick Fury qui la demande dans l'espace, hein, comme ça fut le cas, comme on le voyait hein, à la fin de c'était quoi ? Mais je crois que c'était dans Spider-Man Far From Home, qui avait une scène post-générique avec Nick Fury dans l'espace. Et aussi, ça ouvre donc la porte soit à Captain Marvel 2, soit à Secret Invasion. À voir, parce qu'on sait que Secret Invasion arrive en série et que Nick Fury il sera au centre de l'intrigue, notamment avec les Skrulls. Hein, je ne vous refais pas l'histoire des comics, hein, les Skrulls qui sont plus que présents dans notre société depuis bien longtemps. Enfin bref, soit ça peut présager ça. Et la toute dernière scène post-générique, ben, ça peut présager Doctor Strange in the Madness of the Multiverse ou bien d'autres choses sur les réalités alternatives. Ce qui est dommage, c'est que moi j'avais espéré pendant un temps qu'il y ait un lien avec la série Hawkeye, parce que si vous êtes amateur du Marvel Cinematic Universe, vous n'êtes pas sans savoir que Hawkeye, à de nombreuses reprises, a été présent pour le personnage, justement, de Wanda, déjà en lui dans Age of Ultron, que si elle merdait, ben, il serait là pour elle, pour l'arrêter, et c'est lui aussi qui la recrute au sein de l'équipe Captain America lors de la Civil War. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas vu. Même un petit clin d'œil ou quoi que ce soit pour faire le pont avec justement la série Hawkeye. Peut-être que certaines choses vont se faire justement avec The Falcon and the Winter Soldier qui arrive justement le 19 mars. Mais oui, en tout cas, la phase 4 du Marvel Cinematic Universe est lancée. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Le final, c'est vrai qu'il y a beaucoup sur Internet, on a lu « Ah, ça va décevoir », etc., etc. Mais au final, il ne déçoit pas parce que cette série, c'est une série déjà, mais c'est une série sur une relation amoureuse. C'est pas quelque chose qu'on a habituellement dans les films de super-héros, puisque des fois c'est trop rapidement développé, en 2 heures de temps c'est un peu compliqué. Mais là au moins on a une série de 9 épisodes qui allait de 30 à 50 minutes, à 49 minutes pour le dernier épisode. Donc au moins ça a permis d'avoir un format conséquent qui permettait de bien développer les personnages et c'est pas plus mal au final. Et du coup ça a été un plaisir de redécouvrir, de connaître davantage les personnages de Wanda et Vision, et j'espère les redécouvrir prochainement, et j'espère aussi qu'ils sauront bien faire usage de la dernière petite surprise de fin, parce qu'au final, Vision est toujours là. Mais ça, je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas vu la fin de la série. Donc oui, WandaVision, j'oublie toujours de désamorcer en annonçant la musique que vous venez d'entendre. Là, c'était le Wanda's Theme de Christophe Beck, j'ai un petit doute, je vous le dis tout de suite, Christophe Beck, pardon. Donc oui, c'était Wanda's Theme de Christophe Beck, c'est la petite musique qu'on peut entendre en fin de crédit de cette série. Donc oui, je vais être franc, encore une fois, moi, au moins de la vision, dans ses débuts ou quoi que ce soit, ça m'intéressait absolument pas, et au final, ça m'a bien surpris. Bon, après, ça apporte pas mal d'interrogations, toujours, encore une fois, on en revient, c'est un peu mon discours depuis toute cette pandémie de Covid, malheureusement, mais quid des salles de cinéma, moi, je me pose toujours la question pour Black Widow, qui, devait sortir en avril dernier, et au final, là, soi-disant, ça va sortir en mai, mais bon, avec beaucoup de chance, ça risque de sortir directement sur Disney Peluche. Enfin bref, ça. WandaVision, c'est une série qui s'apprécie. Bon, après, à voir ce que ça peut apporter. Mais, en tout cas, comme j'ai pu le dire dans le son, Moi, ce que je souhaite, c'est que les productions Marvel Cinematic Universe, Marvel Studios, s'orientent un petit peu plus dans ce genre de registre, que ça reste pas dans leur moule habituel, que ça puisse aller au-delà de ce qu'ils font, un petit peu là comme dans cette série, qui en plus de proposer une sorte de nouveau genre avec une sorte de comédie romantique, ça a bien accentué la relation entre deux personnages que l'on connaissait peu jusque-là. Bon, après, le risque, c'est que lorsque on risque de retrouver Wanda, par exemple, dans des productions, peut-être, dans le Spider-Man No Way Home, ou encore dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, putain, je me suis pas chié sur le titre, bravo moi, mais ouais, lorsqu'on la reverra à ce moment-là, comment ils vont faire pour résumer aux spectateurs qui ne regardent pas spécialement les séries ce qui s'est passé? Là, ça peut peut-être être un plan un peu risqué pour Marvel, hein. Et ils pourraient justement se retrouver piégés comme ils l'ont été avec Agent of S.H.I.E.L.D. par exemple, hein, où l'ami Coulson ne nous est plus jamais réapparu dans les films, hein, bien qu'il soit toujours vivant sur le petit écran. Bon, après, ça, je vous laisse le découvrir. Rapidement, oui, Wonder Woman 1984, j'avais très envie de vous en parler pour cet épisode. Finalement, ça s'est pas fait, parce que là, Winnie is Wonderland, je l'ai vu, je me suis dit, purée, faut que je leur en parle. Mais Wonder Woman 1984, bon, on va pas s'en mentir, hein, on est dans la droite continuité, hein, de ce que fait Patty Jenkins, hein, sur le tout premier Wonder Woman. Mais c'est un film de super-héros atypique, hein. Là, on est sur l'écurie DC Comics, hein, la distinguée concurrence de Marvel, et ouais, il faudrait que je vous en parle plus longuement, parce que sinon, après, l'émission va durer des heures et des heures, mais il est bien, il a un joli discours, mais ça fait un peu bisounours sur les bords. Je vais être franc, c'est étrange, hein, parce que de comment il est présenté, le film, hein, on pourrait presque croire que c'est une production Disney de par son discours, de par sa légèreté ou quoi que ce soit. À côté, bon, oui, on va saluer les musiques, etc. Hans Zimmer, hein, de retour sur un film de super-héros. Franchement, de bonnes partitions. Mais par contre, hein, il y a certains fonds verts qui sont juste ignobles à voir. Il y a des incrustations vraiment cracra, hein. Je pense aux séquences de vol, hein, de Diana, Wonder Woman, enfin bref. Je vous en parlerai peut-être plus à l'occasion, hein. Bon, je vais pas trop vous assommer de mainstream, hein. Le mainstream, n'est-ce pas, hein. En tout cas, hein, merci Radio Larzac de laisser sa chance au mainstream. Mais ça, je vais vous le dire dans la conclusion, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, hein. C'est vrai que je parle beaucoup de ce genre de film, mais des fois, n'oubliez pas, hein, dans certaines des émissions passées, j'ai pu vous parler, hein, de films un petit peu plus posés, tranquilles ou quoi que ce soit, hein. Donc oui, si vous avez quoi que ce soit à dire, hein, sur l'émission, hein, si vous voulez participer à l'émission, hein, par exemple, je pensais à une émission, il faudrait que je la propose à Monsieur Metal, à Arcelor Metal, mais le métal au cinéma, je pense qu'il y aurait de quoi faire là aussi, hein, entre Tenacious D, Night of Batasdom. Enfin oui, si vous avez quoi que ce soit à dire sur l'émission, n'hésitez pas à m'écrire, hein, suggestion, avis pour la suite à showtime.radiolarzac@gmail.com et ou showtime@radiolarzac.org. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire. Je vous remercie déjà, auditeur, de m'avoir écouté. Je le remercie toujours, Radio Larzac, de donner sa chance au mainstream, hein. Même si le mainstream, c'est peut-être ceux qui y pensent, qui sont le mainstream. Dossier philosophique, hein. Vous avez 4 heures pour m'y répondre. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.